l'ethnologie. Que reste-t-il à explorer à l'occasion de L'ethnologie va vous surprendre, série de conférences, rencontres au musée du Quai Branly à Paris qui se tiendra ce week-end sur le thème Femmes de terrain, rencontre avec l'une d'entre elles, l'anthropologue Nastasia Martin, auteur de Les âmes sauvages sur les Gwich'in d'Alaska, un peuple du Grand Nord américain, publié à la découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et une rencontre avec l'écrivain traducteur italien Jean Talon qui publie Explorateurs, touristes et autres sauvages aux éditions Plein Jour. Il est allé puiser dans la littérature ethnographique des histoires qui toutes parlent de rencontres. Il en a surtout gardé le moins lu, le moins entendu, parce que moins prestigieux. Les malentendus, les perplexités, les désillusions, l'éros aussi et l'arnaque, écrit-il. Et surtout la stupeur et l'émerveillement face à la diversité avant que l'habitude vienne tout normaliser. Jean Talon ou Jean Talonne, bonjour, puisque vous êtes italien.
En dépit du nom.
Oui. En dépit du nom, bonjour. Et donc ce n'est pas un nom d'emprunt. Ce n'est pas un nom d'emprunt au premier intendant au 17e de la Nouvelle-France. Oui. C'est le vôtre.
Oui,
voilà. Quelle parabole dessine toutes ces histoires que vous avez rassemblées, Jean Talon?
C'est une parabole dont je me suis aperçu au fur et à mesure que j'ai rassemblé ces histoires, que j'ai puisé justement de la littérature ethnographique au sens large. Et en fait, c'est une parabole, disons, les premiers points, c'est que je me suis attaché à ce qu'on peut appeler les mythes du sauvage. Ces mythes, en fait, c'est quelque chose, c'est une figure, celle du sauvage, qui démarre tout de suite après la découverte de l'Amérique. Et les premiers récits de mon livre se passent tout de suite après la découverte de l'Amérique. Et ça continue, ça continue jusqu'à nos jours. Les derniers récits, c'est au sujet des touristes, ce qu'on appelle les écotouristes, hein, un genre particulier des touristes. Et donc là, il y a une continuité, c'est-à-dire cette mythe exotique du sauvage qu'on a fabriqué, qui a subi, à mon sens, une transformation dont je parcours un peu le développement au fil des années, au fil des siècles, parce que c'est une histoire qui dure 5 siècles.
Entre la véracité, l'authenticité et la mise en scène, parfois l'auto-mise en scène aussi, de ces peuples, c'est ce que vous racontez à travers ces histoires que vous avez sélectionnées, Jean Talon. Alors on peut parler du mythe du sauvage, comment on peut aller sur les mythes aussi de la nature, Nastasia Martin, et c'est aussi là-dessus que vous avez travaillé. Revenons d'abord sur votre terrain de recherche pour apprendre à le comprendre, et puis sur ces sentiments contraires que vous avez pu éprouver aussi, comme tous les explorateurs. Mais vous, comme anthropologue, en arrivant là-bas, c'est-à-dire au fin fond des forêts subarctiques, à 23 ans, vous avez trouvé ce que vous étiez allé chercher?
Pas vraiment, non. En effet, je suis partie travailler chez une société de chasseurs-cueilleurs qui vit dans le nord-est de l'Alaska, dans un petit village qui s'appelle Fort Yukon. Et armée de toutes les lectures anthropologiques que j'avais faites, comme toute bonne doctorante avant de partir, je m'imaginais que j'allais travailler sur l'animisme, sur la cosmologie de ces chasseurs-cueilleurs, et donc sur leur manière de se relier à l'environnement, et donc sur l'animisme que j'imaginais être très présent dans ces régions. Et la première rencontre a été très 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 difficile parce qu'en fait je me suis retrouvée dans un village complètement ruiné, jonché de débris de modernité, avec des gens qui étaient extrêmement touchés par les problématiques de drogue, d'alcoolisme et de dépression, tout simplement vraiment profondes. Et donc j'ai dû revenir un petit peu sur mon objectif de départ pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer chez ces gens-là et à quoi ils étaient en train de faire face. Et donc la première partie du récit des âmes sauvages relate en fait le premier face-à-face avec tout simplement l'histoire de la colonisation et la violence qui s'ensuit. Et un deuxième face-à-face beaucoup plus actuel, qui est celui du réchauffement, des problématiques liées au réchauffement climatique, qui entraîne des métamorphoses environnementales vraiment drastiques dans les régions du Grand Nord et auxquelles les chasseurs-cueilleurs sont évidemment confrontés de plein fouet.
Vous pensiez entrer en contact avec ce qu'on appelle la wilderness. Vous avez surtout rencontré la débâcle, ce sont vos mots. Vous pensiez partir dans un monde lointain où le temps peut-être s'était arrêté. Et vous avez trouvé un peuple, une population en souffrance. Extrait d'un documentaire, A Matter of Survival, qui a été réalisé au sein de ce peuple des Gwich'in, où vous vous êtes rendu en Alaska.
C'est très dur pour les gens ici, parce qu'il n'y a que très peu d'emplois au village, et la nourriture coûte très cher. Ici, c'est impossible de vivre toute l'année uniquement de la nourriture de supermarché. Notre vie dépend de là-dehors. Dieu nous a donné cette terre. Et la plupart des gens en dépendent. Si on nous la prend, qu'est-ce qu'on va faire? Où irons-nous? Ils disent que le développement pétrolier n'affectera pas la zone. Mais c'est un risque. Personne ne sait. Et c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. S'ils développent le pétrole et que le caribou parte, qu'est-ce qu'on va faire? Nos vies en dépendent.
Là, on n'est pas face à l'une des histoires aussi que vous racontez, Jean Talon, l'exemple d'un peuple comme les Indiens, trop bien civilisés. On est vraiment dans le cœur d'une histoire moderne, celle d'un peuple touché de plein fouet par cette modernité et les ravages qu'elle a pu faire aussi sur cette population. Nastasia?
Oui, absolument. Ce qu'on vient d'entendre le résume très bien. Il y a des problématiques d'exploitation pétrolière dans le Grand Nord de l'Alaska qui sont vraiment très très importantes. Et les Gwich'in sont l'une des populations qui sont les plus touchées par ça, parce que c'est des chasseurs de caribous à la base. Et que les caribous mettent bas sur la plaine côtière la plus au nord de l'Alaska, qui est aussi la plaine côtière sur laquelle on a trouvé des gisements de pétrole tout à fait gigantesques. Et donc ça fait 20 ans qu'il y a un combat perpétuel entre des ONG, enfin le Gwich'in Steering Committee notamment, qui est une ONG de défense des droits indigènes, Gwich'in et ses compagnies pétrolières qui sont en attente d'exploitation, et c'est presque une évidence que ça va sûrement se faire dans les années qui arrivent.
Jean Talon, ça c'est dans la continuité de l'histoire, que l'exploration se transforme en exploitation aussi.
Mais ça, dès le départ, je dirais, c'est l'histoire de l'ethnologie. Bon, il faut dire, tout d'abord, ça c'est un donné, c'est un fait. L'ethnologie démarre, commence en parallèle avec le colonialisme. Donc ça, c'est un péché originel. Les relations entre les ethnologues et les administrateurs, les missionnaires et tout ça, c'est des relations, c'est un écheveau assez compliqué. C'est un écheveau comme ce que j'ai beaucoup admiré du livre de Natacha Martin, c'est que en fait elle cherche de démêler, là aussi c'est un écheveau très compliqué, et là par exemple il faut dire d'une part donc il y a cette double dans l'histoire de l'ethnologie et même des explorateurs anciens, cette double âme, hein, qui est quelque chose d'ambivalent, qui relève du fait que, justement, il y a cette connivence avec le colonialisme. Et ça, c'est un péché originel qui reste, qui est problématique, dont on doit mesurer un peu les conséquences.
Et qui est d'autant plus marquant si on se réfère par exemple à votre première histoire hein, qui remonte au XVIe siècle, c'est qu'au départ, quand il y avait exploration, c'est le chapitre consacré au fils du soleil, il y avait aussi une fois arrivé une hospitalité qui a été détournée par l'explorateur, par le voyageur qui est parti à la rencontre de ces peuples.
Mais alors là, on est vraiment à la première époque, c'est-à-dire c'est... Il y a les côtés vraiment surprenants de la rencontre. Là, l'altérité est totale. C'est seulement un fantasme, hein. Parce qu'en fait, une question, à mon avis, qui est aussi dans les livres de Madame Martin, c'est aussi ces fantasmes de l'altérité qui a hanté la conscience occidentale pendant 4 siècles. Il me vient à l'esprit une phrase de Lévi-Strauss, un Tristes Tropiques, qui m'a toujours frappé. À un certain moment, il dit « J'ai parcouru autant de kilomètres, de kilomètres, j'ai tant voyagé pour aller vers l'altérité, et je n'ai trouvé que l'homme. Je n'ai trouvé que l'homme. » Et j'ai trouvé quelque chose de ça aussi dans les livres. C'est-à-dire, en fait, les stratégies de cette population, c'est des stratégies tout à fait, disons, compréhensibles hein, par rapport aux écologistes, au projet d'exploitation d'une part et des spectacularisations de l'autre.
Hein,
la nature. Alors, qui c'est des façons d'exploiter, en fait, une réalité typiquement occidentale et qui vont en parallèle, souvent. Et leur stratégie, qui passe par la ruse, hein, c'est une stratégie qu'on comprend très bien, totalement. Donc, cette fantasme d'une altérité absolue, c'est quelque chose qui a été démystifié déjà au XXe siècle. Hein. Lévi-Strauss le fait très bien, cette phrase m'a...
C'est tard le XXe siècle déjà.
Pardon ?
C'est tard le XXe siècle. C'est-à-dire qu'avant, cette déception, cette désillusion face à cette altérité recherchée a été vécue par beaucoup.
Au XIXe, il y a encore, c'est encore fort et c'est, disons, rejoint les sommets de la spectacularisation. Si on pense, et j'en parle dans mon livre, il y a un récit qui parle de ça, aux eaux humaines, par exemple, qui est une conséquence du colonialisme. C'est-à-dire la variété de cultures, aussi des aspects physiques, de ce qu'on appelait race, devient un spectacle pour... en fait, l'Occident, hein, un spectacle fait pour... Et ça, c'est un des fils qui continue dans mon livre au fil des siècles, en fait.
J'ai trouvé l'autre, l'homme, mais la plupart des explorateurs, des voyageurs, des anthropologues, des ethnographes se sont trouvés eux-mêmes en se rendant ailleurs. C'est d'abord une exploration de soi, le voyage, la recherche, le terrain, quand on part à la découverte des autres. Je vous propose d'écouter les mots de Nicolas Bouvier à ce sujet.
Le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. C'est un, pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif, et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.
Vous dites le mot vulnérable. Qu'est-ce que ça apporte d'être vulnérable ?
Beaucoup.
Comment l'entendez-vous ?
Beaucoup. Beaucoup dans le sens que on ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie, côté positif et côté négatif. Et je crois que dans le mode de voyage que nous avions adopté, où nous étions assez soumis aux accidents, aux impedimenta, aux avatars de toutes sortes, ça nous mettait aussi davantage à même de comprendre les difficultés des gens que nous côtoyons, parce que nous étions en situation d'éprouver les mêmes, soucis d'argent, soucis de santé.
Est-ce que ça vous a transformé vous-même, ce terrain, ce long voyage, Nastassia Martin? Quelle distance vous avez réussi à adopter pour saisir tout ce qui se jouait autour?
Oui, absolument, ça m'a transformé. Nicolas Bouvier parle de vulnérabilité. C'est vraiment un mot très important pour comprendre la dynamique qui peut se passer entre un chercheur et son terrain. C'est vrai qu'on m'a, ces derniers temps, on m'a souvent demandé si ça a changé quelque chose, le fait d'être une femme lorsqu'on arrivait sur le terrain. Est-ce qu'on était plus facilement accepté par les gens parce que peut-être on représentait moins une menace que si on était un homme ou un groupe. Et en fait, je pense que c'est pas vrai. La question se pose pas vraiment en ces termes, mais justement plutôt en termes de vulnérabilité partagée. Je pense que moi, c'est vrai que je suis arrivée dans le nord de l'Alaska, j'avais 23 ans, j'étais toute seule. J'ai rencontré le chef tribal et son conseil lors d'une réunion intertribale qui se passait à Fairbanks, et je leur ai tout simplement dit ce que j'avais envie de faire chez eux, que j'avais envie d'écrire un livre sur eux, et est-ce qu'ils m'accueillaient chez eux. Et je pense qu'en fait, le fait d'être seule, loin de chez moi, a été quelque chose qui a favorisé pour eux, en fait, et donc assez déprimé, en fait, il faut le dire quand même, parce que si loin de toutes mes habitudes et mon mode d'être au monde, je pense que ça a favorisé aussi pour eux ça leur a permis de s'ouvrir sur justement les problématiques, les malheurs, les dépressions qui les habitaient eux, en fait. Et donc notre première vraie rencontre, ça a été sur nos manques à vivre, en fait, qui étaient différents et en même temps concomitants.
Ah, c'est très beau tout ça, c'est très beau, et je peux ajouter, j'ai beaucoup apprécié ça quand j'ai lu, dans mon livre, qui est un florilège des malentendus, en fait, la rencontre, c'est les sujets de mon livre, c'est des rencontres. Et c'est... Bon, les filles rouges, c'est les malentendus. Et il y a deux cas.
C'est la rencontre, mais c'est aussi le rêve. C'est aussi l'espoir suscité par ce déplacement.
Mais les malentendus, c'est entraîne des histoires. Hein. Les malentendus, il ne faut pas les considérer seulement comme quelque chose qui bloque la communication. Les malentendus, c'est quelque chose qui engendre une histoire, qui l'entraîne. Et il y a deux histoires, en fait, où, au contraire, il y a des ententes inespérées. Alors, cette question de la souffrance me touche vraiment parce que la souffrance met en jeu l'empathie. Hein, sentir l'autre, c'est la souffrance commune, c'est les ponts pour arriver à une relation. Dans mon livre, alors, il y a l'histoire de McLay, par exemple, qui est un pionnier. À l'époque, il n'y avait pas les ethnologues, c'était un géographe, ethnologue, disons, les groupes humains faisaient partie du paysage naturel. Hein, on classait tout. C'est vraiment le pionnierisme. Et il se retrouve, et ça c'est une des rencontres avec ce qu'on appelle, ce qui est devenu après un mythe, comme les ovnis dans la culture occidentale, la rencontre avec une population intouchée, hein, qui s'est croyée peut-être seule au monde, et en tout cas qui connaissait pas l'existence d'autres. Et dans ces rencontres, évidemment, la première réaction, ça se passe en Nouvelle-Guinée, moitié 19e siècle, et il y a un moment d'agressivité. Ils se retrouvent dans un village où ils n'ont jamais vu un homme blanc. Hein. Donc, évidemment, la première réaction, c'est l'agressivité, la peur, tout ça. Et McLay fait une chose incroyable, un coup de génie, je trouve. Comme il est fatigué, et donc il se couche sur une barre là, c'est en fait une sorte je sais pas comment dire en
français. De paillasse, de lit.
Oui, ouais. Des lits, voilà, de paillasse, voilà. Mm-hmm. Il s'allonge. Et comme il était vraiment fatigué, très fatigué, il n'avait pas dormi à cause des moustiques la veille, il s'endort. Et quand il se réveille, il trouve les gens du village qui ont changé complètement. Ils sont devenus gays, amicales. Les femmes sont arrivées, qui s'étaient cachées, parce que les femmes s'étaient cachées, non? C'était une... Et je trouve ça... Et qu'est-ce qu'il a fait, alors, Maclay, avec un génie oriental, je trouve? Il a trouvé une façon de... Il a trouvé un contact qui passe par les faits qu'on est tous des êtres animaux. Hein? Quelque chose qui va au-delà du langage. On est tous comme... Et donc, dormir, même chez les animaux... Quelqu'un qui c'est une attitude qui c'est un acte de confiance, c'est s'abandonner aux autres, et donc et la chose même un peu drôle, c'est que un siècle après, dans les années 70 du 20e siècle, un géographe qui explorait la même région et trouve dans un village de la Nouvelle-Guinée, il assiste par hasard à un rite bizarre où il y a un explorateur habillé à l'occidental, avec des pantalons et la chemise, qui arrive au milieu, s'allonge par terre et commence à dormir, et tous les gens s'échappent, ça fuit. Donc une pantomime rituelle, les gens du village avaient absorbé ces rencontres et l'avaient inséré dans leur ritualité.
On ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie. Ça, c'est ce que disait aussi à l'instant Nicolas Bouvy. On peut prendre un autre exemple dans votre livre, Jean Talon, celui de René Caillet qui se rend à Tombouctou. C'est vraiment le rêve de sa vie, être le premier Européen à entrer, pénétrer dans cette cité légendaire, interdite aux chrétiens. Alors, il va tout faire pour essayer d'être accepté là-bas. Il va à la fois se déguiser en arabe, il va à plusieurs reprises essayer, il va finir par y arriver. Une fois sur place, il va quand même apprendre l'arabe, apprendre aussi les pratiques religieuses musulmanes.
Il apprend l'arabe avant de partir.
Avant de partir.
Avant de partir, il apprend pouvoir... même les Corans, il devient, pour se déguiser en arabe musulman.
Et une fois là-bas, il y a la désillusion, la déception par rapport à ce qu'il trouve. Hein.
Ouais. Et ça, c'est le feu du récit. C'est-à-dire, mais là, je trouve quelque chose, c'est un cas exemplaire du voyageur. C'est-à-dire les décalages entre l'imagination, les rêves et ce qu'on trouve.
Il va le payer jusque dans son corps, puisqu'il va attraper le scorbut.
Toutes les maladies possibles, il l'a attrapé. Il meurt très jeune. C'est un martyr du voyage.
Comment on fait, Nastassia Martin, pour transformer cette déception du premier regard par rapport à ce qu'on attendait en une réussite aussi dans ce contact qu'on va établir avec l'autre? Comment on réajuste aussi son sujet de recherche par rapport à la réalité qu'on a trouvée?
Oui, je pense en effet que ce décalage, il est vraiment nécessaire, il est très très important. C'est probablement pour moi la chose la plus importante en fait qui va présider à la recréation d'une problématique anthropologique qui soit beaucoup plus ajustée à la réalité. Parce qu'on arrive avec nos illusions, avec nos cases bien préconstruites et préétablies depuis le confort de nos bibliothèques, et on arrive sur le terrain et là la réalité nous frappe. Et c'est quelque chose que m'avait dit mon directeur Philippe Descola alors que je lui avais envoyé un mail justement pour lui dire mais je comprends plus rien en fait, je crois que je vais abandonner ce projet de thèse. Et il m'avait dit non, restez, ça veut dire que ça vient juste de commencer. Et donc c'est vraiment, je pense que ce travail de reconstruction de des enjeux et de la problématique, il est central après cette désillusion qui elle aussi c'est ce qui peut nous faire grandir sur le terrain. Et je voudrais juste revenir sur cette question de désillusion et de altérité ou pas. Je voudrais pas donner à penser, parce que là on a surtout parlé du fait que oui, la réalité ne correspond pas du tout à nos attentes, et qu'aujourd'hui la situation dans le Grand Nord est extrêmement précaire et complexe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'altérité. c'est pas l'altérité qu'on imaginait, mais en fait c'est une altérité bien au-delà de celle qu'on imaginait, qui contient en elle-même des potentialités absolument incroyables. Et c'est sûr, c'est vraiment là-dessus que porte toute la deuxième partie de mon travail.
Voilà, et ça vous a aussi appris à redéfinir et à repenser le concept de nature sur lequel a beaucoup travaillé votre directeur de thèse, Philippe Descola, Anastasia Martin, Jean Talon. On a évoqué quand même les changements en cours, et si je reprends la thématique de départ, l'ethnologie va vous surprendre. Est-ce qu'il reste quelque chose à explorer dans ce monde ? Vous avez évoqué, vous, Jean Talon, les effets du tourisme, de cette occupation touristique planétaire, comme l'appelle Mathieu Poccoté, le Canadien, qui a dépossédé une partie de monde de ce qu'il était, de cette muséification. Je vous propose de vous emmener vers l'absurdité parfois de ces situations. Elle n'est pas anthropologue, elle est mannequin, elle s'appelle Adriana Carambeu, elle était invitée de l'émission de télé Rendez-vous en Terre Inconnue chez les Amara en Éthiopie. Ça nous parle aussi d'altérité, écoutez.
Je suis heureux de vous accueillir ici, dans notre maison, avec ma famille. Il faut vous y sentir comme chez vous, même si c'est très différent des maisons que vous connaissez, j'imagine. Vous savez, quand je vous ai rencontré, je croyais que Frédéric était ton mari.
Non, mon mari, il est beaucoup plus beau que toi.
Je n'ai pas de imaginer.
Déjà, mon mari a la même couleur que toi. Il vient de Nouvelle-Calédonie. Mais il a vécu avec sa famille, comme il était jeune, un peu dans le même esprit, dans une case, avec toutes ses frères et sœurs, autour de feu, pareil, tu vois.
Et ton travail, dis-moi, j'imagine qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le ramassage du bois.
Alors, mon métier... Mon métier, c'est d'être... C'est horrible de dire ça, j'ai la honte. Mon métier, si c'est vrai, pourtant... C'est d'être belle. Tu vois, chez nous, ce qui est très important, c'est des vêtements. C'est pour ça qu'on cherche des jolies femmes, pour qu'elles portent les vêtements. On les maquille bien, on les coiffe bien, on les prend en photo. Et après, les autres gens achètent des vêtements. Tu vois, c'est... Arrête de rire.
C'est génial, vous êtes en train d'expliquer tout le système de consommation dans lequel on vit.
Et moi, je fais ça, tu vois.
Voilà, par le voyage, par la découverte, c'est aussi l'autre qui apprend à nous découvrir et parfois l'absurdité de nos mondes. Jean Talon.
Ben, ça c'est dans mon livre, c'est la fin de la parabole qu'on vient de dessiner. C'est-à-dire l'avant-dernier livre, les derniers c'est sur les touristes, l'avant-dernier c'est un Africain, un berger peul, griot, qui a été invité dans les années 80 à Bologne, ma ville, pour faire des observations ethnographiques. Et donc là, c'est quelque chose de très littéraire, en fait, parce que j'ai joué un peu que ça. Je me suis pris même quelques libertés, c'est-à-dire, c'est voir avec les yeux des autres. Hein, et tout. Là, on voit bien que ce qui est les fruits les plus précieux de cette aventure ethnologique dans ces siècles des grands voyages, c'est-à-dire la relativisation de tous. Montaigne, déjà, il avait compris ça, c'est-à-dire, on appelle barbares ceux qui sont différents de nous. Mais je voulais dire seulement une chose l'altérité. J'ai dit, il faut reconnaître à l'ethnologie un mérite, c'est d'avoir enlevé toute détermination géographique à l'altérité.
Merci beaucoup à vous, Jean Talon, explorateur touriste et autres sauvages, vient de paraître aux éditions Plein Jour. Merci, Anastasia Martin. Les âmes sauvages, apparu aux éditions La Découverte. Tout de suite, le rendez-vous de la médiatrice, comme un jeudi sur deux.
La Grande Table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Et vous recevez aujourd'hui Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia, bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Emmanuel Davier.
On commence avec ce message d'un auditeur, bien qu'il soit légitime de la part de France Culture de faire écho du grand débat avec des intellectuels. Pourquoi y avoir consacré 8 heures d'antenne ? Guillaume Erner, quelles ont été les coulisses de la préparation de cette émission spéciale ?
Alors c'est très simple en fait. On nous a proposé donc de retransmettre et d'animer, c'était moi qui m'en chargeais ce grand débat entre l'Élysée et 65 intellectuels. Alors on s'est fixé un certain nombre de règles avec Sandrine Trainer, ma directrice, notamment celle, par exemple, de prendre le dispositif tel qu'il était, c'est-à-dire de ne pas le négocier, puisqu'à partir du moment où on le négocierait, eh bien, on deviendrait co-organisateur de ce grand débat, ce qui n'était pas le cas. En revanche, on s'est dit qu'à partir du moment où il y avait un président de la République et 65 intellectuels, cela valait la peine, évidemment, de le retransmettre. Je l'ai animé avec à l'esprit une certaine forme de sobriété, tout simplement parce que mon idée, c'était de faire passer la parole, de surveiller la régulation de la parole, si j'ose dire. Le résultat est, à mon avis, un résultat extrêmement intéressant, dans la mesure où Emmanuel Macron s'est exprimé sur un grand nombre de sujets, l'ISF, les droits de succession, la laïcité, et donc on peut être en accord ou en désaccord, bien entendu, avec cette politique, mais en tout cas, elle est exprimée clairement. Et donc, ça n'est pas une opération de communication, tout simplement parce que on n'est pas obligé d'adhérer à, par exemple, ce qu'il dit sur l'Algérie. En revanche, on a des pièces pour choisir, et ça, c'est un peu ma conception du journalisme politique.
On poursuit avec un message très critique de Gérard. « Je suis consterné d'apprendre qu'un journaliste de France Culture soit réduit à servir la soupe à un président de la République aux abois qui cherche à faire le buzz en convoquant quelques dizaines d'intellectuels à sa botte. Quand la profession même de journaliste est remise en cause par une part de plus en plus importante des citoyens, cela me semble déplorable. Au-delà même de la personne de Guillaume Erner, c'est la chaîne qui semble ainsi renouer avec la tradition de servilité par rapport au pouvoir politique. Alors j'indique que la teneur de ce mail résume bien l'ensemble des messages reçus depuis mardi soir. Que répondez-vous aux auditeurs, Guillaume Erner ?
Eh bien, je poursuis Emmanuel Davier. D'abord, je n'ai pas servi de la soupe. D'ailleurs, je n'ai même rien mangé pendant 8 heures, pour être franc. Mais au-delà de ça, ce qui importe, si vous voulez, c'est de faire entendre une voix. En l'occurrence, celle du président de la République, en termes de temps de parole. De toute façon, on est tenu par le CSA, donc l'équilibre des différentes sensibilités politiques, lui, il sera respecté. Mais ce qui importe, encore une fois, ça n'est pas de colporter une parole qui serait privilégiée sur une autre, c'est de faire entendre aux auditeurs les différentes sensibilités politiques qui existent aujourd'hui en France. Je pense que cet auditeur doit être finalement assez peu sûr de ses opinions pour penser qu'il suffit d'exposer les auditeurs à la parole de tel ou tel pour que ce tel ou tel fasse des ravages dans l'opinion. Les auditeurs ont tous un libre arbitre et je ne vois pas en quoi le seul fait de retransmettre cette parole contribuerait en quelque sorte, là en l'occurrence, à la victoire de La République En Marche.
Alors, pro-Macron pour les uns et trop à gauche pour les autres, Dominique nous écrit « La matinale de France Culture animée par Guillaume Erner ne pourrait-elle pas adopter une ligne éditoriale moins marquée à gauche ? Une radio comme France Culture se doit d'être neutre et ne doit ressembler ni à Valeurs Actuelles, ni à Libération ou à l'Humanité. Les points de vue partisans devraient s'exprimer au travers de la diversité des invités, les commentaires de la rédaction étant assujettis à une stricte neutralité. » Quelle est la ligne éditoriale de votre matinale, Guillaume Erner ?
Vous voyez, c'est très caractéristique, ces deux messages. En fait, on les voit monter, le fait de me suspecter d'être trop à gauche, trop à droite, que sais-je. Cela contribue, à mon avis, à une involution, un effondrement du débat public, parce que, à mon avis, il y a de moins en moins de journaux partisans. Et donc, les gens voudraient que désormais, leur radio soit conforme à leur opinion. Et je pense, par ailleurs, que les auditeurs, parfois, perdent de vue ce qu'est le rôle d'un journaliste. Ce journaliste, il est là pour être l'avocat du diable. C'est-à-dire que si je reçois quelqu'un de droite, je vais utiliser les arguments de gauche et réciproquement. Et donc, ce ne sont pas mes opinions qui sont professées, ce sont les phrases que je juge nécessaires. Alors, parfois à tort, hein, je prétends pas du tout être infaillible à cet égard, mais les phrases que je peux invoquer pour faire vivre le débat d'idées et pour essayer de permettre à l'individu d'accoucher complètement de son idée en intégrant les critiques. J'ajouterais, Emmanuel, que sur France Culture, nous n'aimons pas les débats, le clash, le buzz. Et donc, c'est moi, en fait, qui joue le rôle, en quelque sorte, de l'opposant. Et c'est la raison pour laquelle je vais mettre dans ma bouche toute une série d'arguments qui ne sont pas le reflet de ma pensée.
L'expression « une radio neutre », qu'est-ce que cela vous inspire ?
Pour moi, en fait, la neutralité, je ne sais pas tout à fait ce que c'est. L'honnêteté, en revanche, je vois. Et en termes d'honnêteté, ce qui et à mon avis essentiel, c'est de faire entendre les choses, les opinions les plus larges possibles. Quand nous avons décidé de retransmettre ce débat organisé à l'Élysée, on s'est dit que c'était une chance de l'avoir. On peut très bien ne pas l'entendre. Il y a un podcast, mais on n'est pas obligé de télécharger ce podcast. En revanche, on voit bien qu'il y a un grand nombre de gens, on va dire d'Alain Finkielkraut à Thomas Porcher, qui s'expriment sur France Culture. Et c'est le signe que finalement, on n'est pas si partisans que cela.
Merci Guillaume Herner.
Merci Emmanuel Davier.
Et merci à tous les deux. France Culture, il est 13h31. Tout de suite, les pieds sur terre. Sonia Krandund.